Le journal est présenté par Ezequiel Fernandez.
Bonsoir à tous. L'auteur présumé de l'attentat ce matin, Levallois Perret, est hors d'état pour l'instant de répondre aux questions de la police. Il a été interpellé quelques heures après avoir percuté et blessé 6 militaires de la force Sentinelle. Antoine Marette fera le point sur l'enquête. La réserve parlementaire aux oubliettes. C'était le dernier texte voté d'une session extraordinaire qui aura plongé rapidement les nouveaux députés dans le chaudron politique. Compte rendu, Audrey Morelato. 4 morts à déplorer au Kenya pour l'instant. Grande tension dans le pays au lendemain d'élections générales sous haute surveillance. L'opposant, Raila Odinga, conteste les résultats de la présidentielle qui donne le sortant Uhuru Kenyatta largement vainqueur. Correspondance dans ce journal signé Sébastien Nemeth. Et puis la Centrafrique va-t-elle plonger dans une nouvelle guerre civile à grande échelle? La cote d'alerte est atteinte selon les Nations Unies alors que se multiplient les combats sanglants entre factions rivales. Nous ferons le point avec Jacqueline Fardel. La garde à vue de l'homme suspecté d'avoir percuté au volant d'une voiture 6 militaires de la force Sentinelle ce matin, Levallois Perret, a été levée. Il faut dire que son état de santé ne permet pas, à l'heure qu'il est, qu'il soit entendu par la police. Il serait blessé de 5 balles tirées lors de son interpellation sur l'autoroute A16 dans le Pas-de-Calais. L'état de santé des militaires blessés qui font partie du 35e régiment d'infanterie de Belfort n'inspire plus d'inquiétude selon le chef du gouvernement. 3 d'entre eux toutefois sont plus grièvement blessés. La ministre des Armées, Florence Parly, le ministre de l'Intérieur, Gérard Colomb se sont rendus à leur chevet tout à l'heure. Alors qu'il est, Antoine Marette, que sait-on des circonstances et de l'auteur de cet attentat ?
C'est en visionnant les images de vidéosurveillance que les enquêteurs ont pu relever la plaque d'immatriculation de la BMW, une voiture de location qui est géolocalisée quelques heures plus tard grâce au GPS du véhicule. Elle se trouve sur la 16 dans le Pas-de-Calais. L'interpellation qui a lieu en début d'après-midi est musclée. L'homme n'est pas armé, mais il tente de s'enfuir. Il est blessé par 5 balles. Un policier est atteint à la jambe au moment de l'intervention. Le suspect est d'abord placé en garde à vue, mais celle-ci est rapidement levée à cause de son état de santé. L'homme est un Algérien de 36 ans, en situation régulière et inconnu des services de police. Pendant la journée, des perquisitions sont lancées, dont une dans un immeuble de Beson, dans le Val-d'Oise, et une autre à proximité de Sartrouville, dans les Yvelines. Une enquête en flagrance est ouverte par le parquet de Paris sur les chefs de tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en lien avec une entreprise terroriste et d'associations de malfaiteurs terroristes criminels. Elle est confiée à la direction régionale de la police judiciaire, à la direction centrale de la police judiciaire et à la direction générale de la sécurité intérieure. Cette enquête va tenter de déterminer notamment si le suspect agit seul ou s'il a bénéficié de complicité.
Et ajoutons qu'Emmanuel Macron a adressé sur Twitter ses félicitations aux forces de l'ordre qui ont appréhendé l'auteur de l'attaque. Les députés sont officiellement en vacances depuis l'adoption tout à l'heure, en début de soirée, du second projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Seul le groupe Les Républicains a voté contre, la France Insoumise et la gauche démocrate et républicaine se sont abstenus. Ce vote tout à l'heure a mis un terme à la session extraordinaire, rude entrée en matière pour de nombreux nouveaux députés. Audrey Morelato.
L'hémicycle était parsemé, certes, mais pas au point de faire capoter le vote.
Pour l'adoption 412 contre 74... La majorité requise étant atteinte, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique.
Une large majorité donc en faveur de ce texte, mais l'opposition a profité de cette dernière journée de débat pour rappeler une fois encore ses réticences. La France insoumise s'est abstenue car ses propositions n'ont pas été retenues. Les Républicains, eux, ont voté contre. C'est Philippe Gosselin qui l'a expliqué à la tribune.
Il n'est pas la réforme, la grande réforme qui était annoncée. Il n'est pas la grande réforme qui était attendue. Alors si nous avons voté la semaine dernière très 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 majoritairement cette première loi ordinaire sur la confiance, en revanche, il n'est pas question de nous associer au massacre de la réserve parlementaire.
Et après un mois de débat, le texte est donc finalement adopté. La réserve parlementaire disparaît, mais les députés vont sûrement profiter de leurs vacances pour plancher déjà sur le gros dossier de la rentrée, la réforme du Code du travail.
Mais le gouvernement a droit, quant à lui, à de courtes vacances, une quinzaine de jours après le dernier Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin avant la pause estivale. Dans le scandale sanitaire des œufs contaminés à l'insecticide, Sud, le ministre de l'Agriculture annonce une enquête nationale chez l'ensemble des fabricants de produits à base d'œufs. Dans l'une des 5 entreprises françaises recensées, celle du Morbihan, les lots incriminés ont été identifiés finalement et consignés, des lots destinés à la fabrication de biscuits et autres pâtisseries. Christophe Travers, le ministre, critique implicitement par ailleurs la Belgique et les Pays-Bas pour la lenteur de leur réaction. Le ton monte comme une mayonnaise, pourrait-on dire. D'ailleurs, entre ces deux pays, le ministre belge de l'Agriculture accuse les autorités néerlandaises de ne pas avoir informé ses voisins européens du problème, alors qu'elles étaient au courant depuis novembre 2016. Anticiper les situations de sécheresse qui pourraient devenir chroniques dans un futur proche. Nicolas Hulot et Stéphane Travers ont présenté ensemble cet après-midi un plan d'action qui passe par le stockage hivernal de l'eau, la réutilisation des eaux usées, encourager également les économies, notamment dans le secteur agricole. En ce moment, des arrêtés préfectoraux de restriction d'usage de l'eau sont en cours dans 82 départements. 4 morts. 4 morts, c'est pour l'instant le bilan des troubles post-électoraux au Kenya. 6 scrutins étaient organisés hier dans l'élection présidentielle. Face à face, 2 blocs, vous le savez, celui du président sortant, Uhuru Kenyatta, candidat à sa succession, et l'opposant historique, Raila Odinga, qui participe à sa 4e présidentielle. Celui-ci rejette d'ailleurs les résultats provisoires qui donnent une avance confortable au sortant, plus de 54% selon le dernier des comptes partiels. Raila Odinga a appelé ses partisans aujourd'hui au calme, mais il a prévenu, je ne contrôle pas le peuple. En tout cas, les troubles se sont multipliés. En ligne de Nairobi, Sébastien Nemeth.
Oui, des manifestations dans plusieurs bidonvilles de la capitale, Kibera, mais surtout Mataré, avec pneus brûlés, jets de pierre contre les forces de l'ordre. La police a répliqué, violence également dans l'ouest du pays, Kisumu et Kisi. Ces débordements ne sont pas une surprise, toutes ces zones sont connues pour être pro-opposition. Or, le camp de Raila Odinga a déjà perdu 3 fois la présidentielle. Une véritable frustration s'est accumulée, d'autant qu'en 2007, il y avait eu des fraudes massives. Ces manipulations avaient entraîné une terrible crise avec des affrontements interethniques et plus d'un millier de morts. Raila Odinga avait dû accepter de partager le pouvoir et d'occuper la vice-présidence. En 2013, le système informatique du vote avait failli. Des centaines de milliers de bulletins avaient dû être annulés. Raila Odinga avait contesté les résultats devant la Cour suprême qui avait confirmé la victoire d'Uhuru Kenyatta.
La commission électorale kenyane dément par ailleurs formellement l'accusation de fraude informatique massive et généralisée, accusation lancée par Raila Odinga qui aurait été commise pour falsifier les résultats du vote présidentiel au Kenya. 6 volontaires de la Croix-Rouge tués il y a 6 jours de cela, mais nous l'avons appris aujourd'hui, dans le sud de la Centrafrique, dans des combats dans le sud du pays. Des combats qui auraient fait plusieurs dizaines de morts entre des groupes armés issus du conflit entre l'ex-rébellion Séléka, majoritairement musulmane, et les anti-Balaka, qui eux sont majoritairement chrétiens. Les Nations Unies parlent de signes avant-coureurs de génocide dans ce pays. Les attaques menées par divers groupes armés et milices se sont multipliées, y compris donc contre les employés humanitaires et les casques bleus de l'ONU. Jacqueline Fardel, tout cela fait craindre un redémarrage du conflit qui avait déchiré le pays en 2013.
Cette attaque du personnel de la Croix-Rouge est la 3e du genre à avoir coûté la vie à des membres de l'organisation dans le pays depuis le début de l'année. Elle s'est produite à Gambo, à 470 km au sud-est de Bangui, la capitale. C'est là aussi qu'ont été tués 9 casques bleus depuis début mai. Depuis plusieurs mois, l'état sécuritaire du pays ne cesse de se dégrader. Plusieurs ONG alertent sur la situation humanitaire extrêmement grave et les violences contre les civils. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont perdu leur maison ou n'osent pas y retourner. Tournée en raison des combats, notamment dans les régions frontalières de l'Ouest et du Sud. Dans un pays où l'État et l'armée sont quasiment absents, en dehors de la capitale, l'ONU craint une rechute imminente dans une crise humanitaire de grande ampleur. Sur 4,5 millions d'habitants, la Centrafrique compte aujourd'hui 1,5 million de réfugiés, presque autant de déplacés, plus de 450 000 personnes qui fuient vers les pays voisins, comme le Cameroun, qui voit arriver des personnes en mauvaise santé et des enfants victimes de malnutrition. La Centrafrique est ravagée par les violences récurrentes depuis 2013 et le renversement de l'ex-président Bozizé. Les combattants des groupes armés s'affrontent pour le contrôle des ressources naturelles, l'or et les diamants, et également pour le contrôle de certains axes commerciaux comme les frontières avec la République démocratique du Congo ou le Tchad.
Et ajoutons que les Nations Unies ont déployé sur place 12 500 militaires et policiers pour aider à la protection des civils. La France, rappelons-le, a mis fin en octobre 2016 à son opération militaire Sangaris, déployée en décembre 2013 en Centrafrique. Dans l'escalade verbale à laquelle se livrent Donald Trump et Kim Jong-un, qui rappelle un petit peu le scénario du film de Stanley Kubrick, Docteur Follamour, Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, joue la carte de l'apaisement. Selon lui, il n'existe aucune menace imminente d'agression nord-coréenne. Je pense que les Américains peuvent dormir tranquillement et ne pas s'inquiéter de la rhétorique de ces derniers jours, a-t-il déclaré depuis l'île de Guam, dans l'archipel des Mariannes, qui abrite une base de la marine américaine. Il s'agit donc des propos de Rex Tillerson. Grisaille et pluie au menu météo prévu pour demain jeudi, à l'exception de la frange méditerranéenne, toujours elle, où les températures seront de saison, de 25 à 31 degrés. Ailleurs, il faudra se contenter de 18 à 22 petits degrés pour les maximales. Fin de ce journal, préparé avec Brice Garcia.